à Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, édition de 17h30 temps universel du lundi 21 mai 2018. Abdourahman Dia en direct de Washington, voici les titres. Une attaque à Beni dans l'est de la RDC a fait au moins 10 morts, tous des civils. Les rebelles ougandais ADF sont mis en cause. Résultat du référendum au Burundi, le oui l'a largement remporté, ouvrant la voie à un renforcement du pouvoir du président.
Nous avons toujours jugé inopportune la révision unilatérale de cette constitution qui consacre la paix et la sécurité pour tous au Burundi.
Human Rights Watch accuse l'armée burkinabé d'abus dans sa lutte contre le terrorisme. Et ici aux États-Unis, la nouvelle directrice de la CIA, Gina Haspel, a prêté serment ce matin après avoir été confirmée la semaine dernière par le Sénat. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Bienvenue à tous. Au Burundi, le référendum sur la réforme de la Constitution a été largement approuvé. Le président Pierre Nkurunziza pourra donc briguer deux mandats successifs de 7 ans à partir de 2020. Le point avec Marie Benson.
La révision de la Constitution a été approuvée avec plus de 73% des voix, 19,3% ont voté contre et 3,3% d'abstention, a indiqué le président de la CENI, Pierre Claver Nadine Carrier. Il a assuré que la participation était de 96,4%. La Cour constitutionnelle doit maintenant valider ses résultats. Avec le nouveau texte, la durée du mandat présidentiel sera de 7 ans renouvelable une seule fois. Le président Pierre Nkurunziza, au pouvoir depuis le 2005, pourra ainsi gouverner jusqu'en 2034. Il va concentrer tous les leviers du pouvoir exécutif et son parti, le CNDD-FDD, aura la main mise sur toutes les institutions. La coalition, menée par le principal opposant à l'intérieur du pays, Agathon Rwasa, avait par avance annoncé qu'elle ne reconnaissait pas les résultats de ce référendum. De son côté, Jean Minani du CNARED, l'opposition en exil, promet d'user de tous les moyens pour empêcher le président Pierre Nkurunziza de détruire la démocratie.
Et nous reviendrons sur les résultats de ce référendum au Burundi avec la réaction du Frodebu. Au moins 10 civils ont été tués la nuit dernière à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. L'attaque a eu lieu à Mbau, à environ 20 km du centre-ville de Beni. On retrouve à Goma Charlie Kasereka, qui nous donne les derniers détails. Charlie, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, quelles sont les dernières informations?
En fait, les informations n'ont pas évolué tout à fait, mais c'était hier vers 19h, sous une forte pluie, que les affaires ont fait incursion dans le village de Mbau, alors que les habitants sillonnaient encore dans les ruelles de cette agglomération, qui est située à plus de 20 km du centre-ville de Beni. Et aujourd'hui, la rébellion islamiste est encore pointée du doigt dans cette attaque par la société civile locale. Et au total, on parle de 10 civils, dont 2 femmes qui ont été tuées, et parmi lesquels il y a 2 blessés et plus d'une dizaine sont portés disparus. Et par ailleurs, 8 kiosques et boutiques ainsi que 2 officines pharmaceutiques et plusieurs habitations ont été littéralement tuées par les rebelles avant de s'enfuir dans un échange avec l'armée congolaise.
Voilà. Charlie Kasereka en direct de Goma. Toujours en République démocratique du Congo, une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola a commencé ce lundi, selon l'Organisation mondiale de la santé. De son côté, le ministère congolais de la santé indique qu'une personne est décédée et 2 autres sont sortis guéris de la maladie ce week-end. Le point avec Jacques Aristide.
Encore expérimental, le vaccin VSV EBOV a été développé par le groupe pharmaceutique Merck et son emploi est qualifié de changement de paradigme par l'OMS qui espère qu'il permettra de contenir la propagation du virus Ebola. 4000 vaccins sont arrivés samedi à Bandaka. L'épidémie qui touche des zones reculées de la province de l'Équateur a fait 25 morts selon l'OMS. D'après le ministre congolais de la Santé, le docteur Oli Ilunga, un mort, a été enregistré hier à Bandaka, alors que deux malades confirmés porteurs du virus Ebola sont sortis guéris samedi à Bikoro, épicentre de la maladie déclarée depuis le 8 mai dernier. Pour sa part, la Guinée a envoyé en renfort, en RDC, une quarantaine de membres de son personnel de santé pour aider à enrayer la propagation du virus. La Guinée, pays où s'était déclarée fin 2013 la plus virulente épidémie de fièvre hémorragique Ebola de l'histoire.
Par ailleurs, grève dans le secteur du transport public en RDC, bus et taxi étaient très rares à Kinshasa ce matin. Les chauffeurs qui dénoncent donc la décision des autorités de baisser les tarifs de la course. Human Rights Watch accuse les forces de sécurité burkinabées d'avoir commis des exécutions extrajudiciaires, des mauvais traitements et des arrestations arbitraires lors d'opérations antiterroristes entre 2017 et 2018. Dans un communiqué, la directrice de Human Rights Watch pour la région du Sahel, Corinne Doufka, a déclaré que l'insécurité croissante au Burkina Faso a conduit à des crimes terribles commis tant par des groupes armés islamistes que par des membres des forces de sécurité de l'État. Nous y reviendrons en partie magazine. Au Zimbabwe, une commission du Parlement a de nouveau convoqué l'ancien président Robert Mugabe pour qu'il se prononce mercredi sur la disparition de milliards de dollars de revenus tirés de la vente de diamants. M. Mugabe n'a pas fait savoir s'il comptait répondre à la citation de la commission parlementaire des mines et de l'énergie. Il avait déjà été convoqué en avril, mais l'audition avait été annulée. En Zimbabwe, un tribunal a ordonné la mise en liberté sous caution du chanteur et militant Pilato, arrêté la semaine dernière à son retour d'exil. Chama Fumba, alias Pilato, âgé de 34 ans, avait été arrêté à son retour d'Afrique du Sud, où il avait passé 4 mois. Il avait reçu des menaces de partisans du Front Patriotique, le parti au pouvoir, à propos d'une chanson jugée critique envers le pouvoir.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, Mme Gina Haspel a pris fonction comme directrice de la CIA. Elle a prêté serment aujourd'hui en présence du président Donald Trump, qui s'est rendu au siège de l'agence de renseignement américaine. Pour la circonstance, on fait le point avec Eric Manirakiza.
Nous l'avons fait annoncer Gina Haspel, qui a évoqué l'énorme fierté d'être la première femme à la tête de la CIA, la puissante agence de renseignement américaine. Madame Haspel a loué le courage de générations de femmes avant elle qui ont combattu les stéréotypes et ouvert des portes.
The men and women who serve here are a national treasure.
Je suis ici grâce à ces héroïnes qui n'ont jamais recherché la gloire mais ont été une source d'inspiration, a-t-elle déclaré dans son allocution après avoir juré fidélité à la Constitution américaine. Deux jeunes filles de 6 et 7 ans présentes dans l'assistance lui ont adressé un mot d'encouragement.
Our enemies will take note. Gina is tough.
Le président Donald Trump a brièvement souligné l'étape que représentait l'accession d'une femme à la tête de la CIA. Gina Haspel, âgée de 61 ans, dispose d'une expérience de plus de 30 ans au sein de la CIA. Elle succède à Mike Pompeo, nommé secrétaire d'État. Sa nomination avait créé la polémique pour son rôle controversé dans des programmes de torture après les attentats du 11 septembre.
Les États-Unis ont menacé l'Iran de sanctions sans précédent si Téhéran ne se plie pas à leurs conditions pour conclure un nouvel accord beaucoup plus vaste. Mike Pompeo, le chef de la diplomatie américaine, a déclaré que l'Iran n'aura plus jamais carte blanche pour dominer le Moyen-Orient. Il a promis les sanctions les plus fortes de l'histoire contre l'Iran. Il a aussi mis en garde les compagnies européennes qui feraient des affaires en Iran dans des secteurs ciblés par les sanctions américaines. En France, 3 mineurs ont été blessés, ils ont plutôt été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le meurtre vendredi à Pau d'un Français d'origine burkinabé tabassé à mort en pleine rue. Selon plusieurs témoins entendus depuis par les enquêteurs, l'homme a été très violemment passé à tabac par une douzaine d'adolescents. Le président du Paraguay, Horacio Cartes, a inauguré ce lundi à Jérusalem la nouvelle ambassade de son pays en Israël, emboîtant le pas aux États-Unis. M. Kartes et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou ont dévoilé ensemble la plaque de la nouvelle représentation diplomatique située dans un quartier excentré du sud de Jérusalem. Le Paraguay est le troisième pays à ouvrir une ambassade à Jérusalem après les États-Unis et le Guatemala. Israël a convoqué ce lundi les ambassadeurs d'Espagne, de Slovénie et de Belgique en réaction au vote de ces pays au Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour l'envoi d'une mission d'enquête internationale sur les événements sanglants à Gaza. Plus de 60 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens alors qu'ils protestaient contre l'ouverture de l'ambassade américaine à Jérusalem. Et puis le régime de Bachar el-Assad a annoncé qu'il contrôle totalement Damas et ses environs pour la première fois depuis 2012, une annonce qui intervient après l'évacuation de djihadistes du groupe État islamique. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique à présent, c'est la Minute Éco avec Eric Manerakisla.
Au Togo, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes a permis de former plus de 15 000 jeunes. Plus de 2500 micro-entreprises ont été créées et ont généré 6500 emplois directs. Diverses institutions ont libéré environ 5 milliards de francs CFA pour accompagner ces jeunes entrepreneurs. Le gouvernement vise la diversification et l'adaptation des offres aux différents projets tels que l'agriculture, l'élevage. La BAD soutient l'initiative depuis 2016 et prévoit de créer plus de 19 600 emplois directs sur 5 ans. Les financements bancaires au secteur agricole devraient passer à 5% des crédits octroyés. Mise en place en Côte d'Ivoire de la commission consultative de fixation des prix de cession des terrains domaniaux. Elle a pour mission de proposer les prix de cession des terrains domaniaux sur l'ensemble du territoire. Il s'agira aussi de fixer les prix en adéquation avec les tendances des valeurs vénales, redynamiser les comptes des terrains urbains et rehausser l'économie. La commission rendra ses conclusions à la fin du mois de juillet. Le FMI accorde un prêt de 2 milliards de dollars à l'Égypte qui porte à environ 8 milliards de dollars la somme décaissée pour l'Égypte dans le cadre d'un plan d'aide de 12 milliards de dollars approuvé en novembre 2016. Ce plan a permis des réformes économiques audacieuses, la libération du taux de change de la livre égyptienne, la taille dans les subventions à l'énergie et à d'autres produits non prioritaires et l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée TVA.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinot. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Éliminatoire de la CAN des moins de 20 ans, on connaît les affiches du troisième tour.
Oui, le Mali est resté intraitable en battant à nouveau la Tanzanie 4 buts à 1. Le Ghana s'est lui qualifié aux dépens de l'Algérie, battu 2-0. Le Malawi a renversé l'Angola sur son terrain, victoire 4-1. Le Sénégal est passé en sortant l'Égypte au tir au but, 6 pénaltys à 7. Le Cameroun, qualifié après sa victoire 2-0 contre l'Ouganda. Le programme du troisième tour, Mauritanie-Nigeria, Ghana-Bénin-Burkina Faso ou Libye-Gabon, la Zambie face au Burundi, le Cameroun face au Mali, l'Afrique du Sud face au Malawi et le Congo face au Sénégal.
L'Espagne dévoile sa liste des joueurs retenus pour la Coupe du Monde 2018.
L'attaquant de Chelsea, Alvaro Morata, n'a pas été retenu dans la liste des 23 joueurs convoqués en équipe d'Espagne pour la Coupe du Monde 2018. Annonce du sélectionneur Julen Lopetegui. Les attaquants appelés sont Isco, Asensio, Lucas Vázquez, Iago Aspas, Rodrigo Moreno et Diego Costa au sein d'une liste conduite sans surprise par les cadres d'Erea, Piqué, Ramos, Busquets et Iniesta.
Nadal, de nouveau au sommet du tennis mondial.
Oui, une semaine avant de défendre son titre sur la terre battue de Roland-Garros, Rafael Nadal, vainqueur à Rome, s'est de nouveau installé au sommet du classement ATP, dans lequel Novak Djokovic continue de s'enfoncer. L'Espagnol avait cédé la place de numéro 1 mondial l'espace d'une semaine à Roger Federer, qui ne joue pas la saison sur terre battue. Chez les dames, Maria Sharapova a gagné 11 places pour se hisser au 29e rang mondial. La Roumaine Simona Halep, finaliste à Rome, reste numéro 1 mondial.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Stephen Curry et Golden State ont rappelé dimanche à la concurrence qu'ils étaient les principaux candidats à leur propre succession pour le titre de champion NBA en infligeant une correction à Houston 126-85 lors du troisième match de la finale de la conférence Ouest. Les Warriors, vainqueurs de deux des trois dernières éditions, mènent désormais 2-1 dans cette finale qui se dispute au meilleur des 7 matchs. Invaincus sur leur parquet depuis le début des playoffs, les Warriors ont signé leur 16e victoire d'affilée à domicile en phase finale, nouveau record NBA. Et puis à suivre cette nuit, la finale de la conférence Est, le 4e match, Boston qui mène 2-1 contre Cleveland.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. On passe au dossier du jour. Les Burundais ont largement approuvé par référendum une réforme de la constitution qui peut permettre au président Pierre Nkurunziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Selon les résultats provisoires annoncés ce lundi par la commission électorale, le oui en faveur de cette révision constitutionnelle a obtenu 73,2% des voix contre 19,3% pour le non et 3% vont à l'abstention. Pour en parler, John Lyndon a joint à Bujumbura Léonce Ngendakumana, président du Front pour la démocratie au Burundi, le FRODEBU.
Parce que ce qui a été dit par le président de la CENI, pour le parti Sawaya Frodebou, nous avons toujours jugé inopportune la révision unilatérale de cette constitution qui consacre la paix et la sécurité pour tous au Burundi, qui consacre la démocratie et la bonne gouvernance dans ce pays, qui consacre un système politique inclusif. Maintenant, la campagne électorale qui s'est déroulée, le jour du référendum, nous avons constaté au niveau du parti Sawaya Frodebou que ce référendum a été entaché de nombreuses irrégularités, de violences verbales et physiques, des cas de fraude, des cas d'imitation du terrorisme. Donc, nous avons même observé que la proclamation des résultats qui devait se faire le même jour ou le lendemain a fait 4 jours. Ça veut dire qu'on était en train de bricoler. Le oui n'a pas remporté, c'est le non qui avait remporté. On a vu quelle était la mobilisation de la population pour le vote négatif, pour le vote contre.
Ce qu'on note aussi, c'est que Pierre Claver Ndayikariye, le président de la CENI, a déclaré également que le taux de participation s'élevait à 96,4%. N'est-ce pas là la preuve que Pierre Nkurunziza a le feu vert d'une large partie du peuple burundais pour rester au pouvoir s'il le souhaitait après 2020?
D'abord, je pense que ça fait dépasser les limites. Donc, penser qu'il peut briguer un autre mandat en 2020 parce que en 2015, devant le Parlement, les deux chambres réunies, en prêtant serment, il a juré au nom du peuple burundais que c'est son dernier mandat. Comment est-ce qu'il peut encore briguer un autre mandat? Ce n'est pas vrai. En ce moment, ça sera, supposons qu'il le fasse, ça sera contre son serment.
Les résultats du référendum, tout au moins ceux proclamés par la CENI, sont là. Qu'est-ce que l'opposition entend faire?
Nous allons nous concerter au niveau de l'opposition et je suis sûr et certain qu'il y a d'autres forces qui ne s'expriment pas mais qui sont en faveur du maintien de l'accord d'Arusha et de la Constitution comme pierre angulaire de l'unité et de la cohésion du peuple burundais, de la démocratie et de la bonne gouvernance dans ce pays. Nous allons poursuivre le combat jusqu'au rétablissement d'une constitution conforme à l'accord d'Arusha.
C'était Léonce Ngendakumana, vice-président du Front pour la démocratie au Burundi.
Et Kiabadou avec vous et je vous donne rendez-vous dans votre émission interactive à votre avis à 18h en temps universel. Des ONG dénoncent et portent plainte contre l'exclusion du système éducatif de jeunes filles enceintes en Sierra Leone. Que pensez-vous de l'expulsion des filles enceintes des écoles? Comment permettre aux filles d'étudier et se former malgré leur grossesse? Et comment prévenir des grossesses précoces? Laissez vos numéros et commentaires ou appelez en direct à 18h en temps universel au 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com.
En République démocratique du Congo, l'OMS a annoncé le lancement d'une campagne de vaccination contre la fièvre hémorragique Ebola. La campagne a démarré ce lundi à Mbandaka, puis à Bikoro le 26 mai. Pour plus d'explications, Idriss Fall a joint Michel Yao. Il est responsable du service des urgences de l'OMS en RDC.
Aujourd'hui à Mbandaka, c'était un événement historique dans la réponse à Ebola. C'est la première fois qu'on introduit au tout début de l'épidémie la vaccination contre la maladie à virus Ebola.
Ce vaccin-là, on dit qu'il est expérimental.
C'est un vaccin qui n'est pas l'autorisation de mettre sur le marché, mais qui a été conseillé par des experts techniques qui ont analysé en fait l'effet de ce vaccin lors des épidémies précédentes. Et donc c'est un vaccin qui a dont plus de 16 000 personnes ont participé à l'essai, et c'est un vaccin qui a été utilisé sur près de 7 500 personnes en Guinée. Et donc, c'est un vaccin qui a fait ses preuves et qui a été conseillé par un groupe d'experts comme outil essentiel dans la lutte contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola.
Maintenant, est-ce que vous en avez assez de doses pour la région de Mbandaka ou bien même pour l'Équateur?
Ce vaccin obéit à un protocole strict. C'est un vaccin qui n'est pas destiné à l'ensemble de la population. Donc c'est un vaccin pour lequel sont éligibles le personnel médical qui est directement exposé à cette maladie, soit par les soins ou soit impliqué dans les enterrements sécurisés, d'une part. Et d'autre part, ce vaccin est aussi utilisé pour les contacts des personnes qui ont été déclarées positives. Il s'agit de contacts immédiats, mais aussi les contacts de ces contacts. La stratégie vise alors à interrompre la chaîne de transmission auprès des personnes qui sont devenues positives.
Et on nous a dit qu'il y a eu 2 cas de personnes porteuses du virus Ebola qui ont pu en guérir. Comment c'est possible?
Pour le moment, il s'agit de traitements symptomatiques. Il y a des médicaments aussi qui sont à l'essai. Et donc, si la personne est prise en charge assez tôt, il y a des guérisons. Et ceci a été aussi observé dans la grande épidémie de l'Afrique de l'Ouest. Il y a des personnes qui peuvent en guérir.
Qu'en est-il d'empêcher la propagation? Est-ce que toutes les mesures sont prises pour que les gens ne se déplacent pas pour aller vers Kinshasa ou ailleurs?
Il s'agit en fait de mettre en place des mesures sans restreindre pour le moment les mouvements de population. Et donc il s'agit de mettre des points de contrôle sanitaire pour s'assurer que des personnes qui se déplacent, qui sont malades, puissent être détectées.
C'était Michel Yao, responsable du service des urgences de l'OMS en RDC.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Restons en République démocratique du Congo pour signaler cette grève des transporteurs à Kinshasa ce lundi. C'est pour dénoncer les tracasseries policières, la hausse du prix du carburant et le non-respect de nouveaux tarifs du transport en commun. Les chauffeurs de taxi et taxibus et leurs véhicules étaient très rares dans les rues de la capitale congolaise. C'est un reportage de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Ce mouvement de grève a sérieusement paralysé le secteur de transport en commun lundi à Kinshasa. Les transporteurs avaient jeté des tracts depuis la semaine dernière pour l'annoncer. Jusque vers midi, des arrêts de bus étaient bondés de monde. Plusieurs d'entre eux ont dû attendre des heures pour attraper un hypothétique transport afin d'arriver qui à l'école, qui au lieu du service.
On a constaté depuis le matin qu'on s'est réveillé. Il y a un problème de transport. Il y a pas assez de véhicules puisque les chauffeurs n'ont pas voulu mettre leurs engins en circulation. Et ils sont en train de se plaindre parce qu'il y a eu une augmentation de prix des carburants. Et ce qui fait à ce que nous connaissons ce genre de choses dans toutes les artères de la ville de Kinshasa.
Il n'y a même pas de transport, c'est même pas question d'être difficile, mais il n'y a même pas de taxi, il n'y a rien du tout. Ce sont les personnels qui essaient de prendre la population et d'aider la population pour le déplacement. Les motos, je n'ai pas essayé parce que ce n'est pas aussi sécurisant, il n'y a pas de casque de protection, il n'y a rien, donc ce n'est pas aussi sécurisant de quitter le magasin jusqu'au boulevard en moto. La répercussion, c'est sur nous, la population. On sera peut-être sanctionné parce qu'on n'est pas venu à l'heure aller au boulot. Le problème de transport, ça ne le regarde pas. Et eux, il faut faire le transport et ils font un effort d'arriver à temps. La personne habile de prendre des décisions par rapport au transport dans la ville de Kinshasa puisse faire son travail.
C'est un problème qui exige que le gouvernement intervienne. Même Transco n'arrive pas complètement à répondre aux besoins réels de la population. Le gouvernement doit avoir l'œil dessus et répondre rapidement.
Les chauffeurs de taxi et taxibus du secteur privé réclament au gouvernement la révision à la baisse du prix du carburant et se plaignent du fait que la population ne paye pas les prix fixés dans la nouvelle grille tarifaire publiée début mai par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Et le déploiement des bus Transco et New Transkin appartenant à l'État n'a pas pu combler ce manque de transport en commun. Mais parmi les transporteurs privés, certains qui sont quand même sortis ont profité de la situation pour faire monter les enchères. Ils ont doublé, voire triplé le prix de certains trajets.
J'effectue les tronçons gare centrale 24 sous CIMAT pour aider les gens. Suite à la grève des chauffeurs, magasin 24 novembre pour 1000 francs et magasin gare centrale 2000 francs ou 2500 francs. Les clients n'ont pas le choix parce qu'ils doivent se rendre au travail.
Le gouverneur de la ville de Kinshasa n'a pas encore réagi à cette situation. Les autorités provinciales n'ont pas encore réagi à cette situation, mais le président de l'association des chauffeurs du Congo, ville de Kinshasa, s'est montré rassurant dans la soirée après une réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il a appelé les transporteurs à reprendre du service en attendant un compromis qui va dans le sens de leurs demandes. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Human Rights Watch dénonce des exécutions extrajudiciaires, des mauvais traitements et des arrestations arbitraires sur des présumés terroristes lors d'opérations anti-djihadistes menées entre 2017 et 2018. Dans un rapport intitulé « Le jour, nous avons peur de l'armée et la nuit des djihadistes », l'ONG met en cause les forces de sécurité burkinabé. Yacouba Ouedraogo a joint Corinne Doufka, directrice Sahel de l'ONG Human Rights Watch.
On a documenté 14 exécutions sommaires présumables commises par les forces de l'ordre. Cette exaction était commise dans plusieurs contextes. D'abord, certains dans le grand opération militaire et parfois, ça semblerait que c'était les exécutions ciblées des légendes subconnues d'être avec ou de soutiennent le groupe islamiste. Le plus grave cas qu'on a documenté s'est passé fin décembre, dans lequel à peu près 27 personnes étaient arrêtées dans un village qui s'appelle Damba et après, parmi les 27, 8 de les personnes-là étaient séparées de l'autre groupe et abattues.
Abattues par qui?
Apparemment par l'armée.
Et ça, c'est ce que les témoins disent sur le terrain. Est-ce que vous avez pu vérifier?
Notre travail s'est basé à le témoignage. Je parlais avec 5 témoins sur cet incident qui avait l'information très détaillée par rapport à cet incident. Moi-même, j'ai aussi l'endroit où est-ce qu'est le fosse commune dans lequel il y a les 7 personnes enterrées.
Vous avez découvert des fosses communes?
C'était pas qu'on a découvert, mais les témoins m'ont donné les informations par rapport à la fosse commune.
Dans votre rapport, vous parlez d'un responsable d'un gouvernement local retrouvé mort. Qu'est-ce que vous appelez gouvernement local?
On a documenté un cas d'un conseiller municipal qui était convoqué à la gendarmerie de Djibo et trouvé mort le lendemain. Je parlais avec plusieurs témoins aussi qui ont vu le monsieur juste avant qu'il entre à la gendarmerie ou les autres qui ont dit qu'ils ont entendu le monsieur parler que j'ai été convoqué par le gendarme. La plupart des gens qui étaient trouvés morts, qui on a documenté, étaient la dernière fois avec la force de l'ordre.
Ça fait quand même bizarre qu'un conseiller municipal soit convoqué par la gendarmerie, qu'il soit par la suite retrouvé mort. Et donc vous suspectez la gendarmerie de l'avoir tué. Un conseiller municipal, c'est quand même un représentant de la collectivité locale.
C'est un cas qui a été dénoncé même par plusieurs membres de la population locale qui ont planté auprès du gouvernement pour enquêter le cas. Aussi, selon le témoin, plusieurs membres de la famille de la personne concernée étaient après convoqués aussi, arrêtés pendant plusieurs journées à la gendarmerie.
Votre rapport est intitulé, je cite, « Le jour nous avons peur de l'armée et la nuit des djihadistes », vous donnez quand même l'impression de mettre sur un pied d'égalité les forces armées burkinabè et les groupes terroristes, en ce qui concerne en tout cas les exactions dans le nord du Burkina.
Moi, j'ai documenté 19 exécutions sommaires commises par le groupe djihadiste, mais pour l'autre côté, on a documenté les 14 cas dans lesquels les forces de l'ordre sont apparemment impliquées. C'est pour ça que j'ai intitulé le rapport comme ça, parce que les gens ont pris sandwich entre les deux côtés.
Le rapport, il est produit. Quelle sera la suite?
On a envoyé une lettre au gouvernement. Ils ont pris l'engagement d'enquêter.
C'était Corinne Doufka, directrice Sahel de l'ONG Human Rights Watch. Et c'est sur cela qu'on se quitte. Merci d'avoir suivi cette édition. À la mise en onde de Joselle Morissin, la console Taïb Al-Joubert, présentation Abdourahman Dia. Merci voir le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com. Au revoir.
VOA Afrique, les infos.